intervention divine. Ce scénario présente la révolution agricole comme une erreur de calcul. Il est très plausible. L'histoire fourmille d'erreurs de calcul bien plus idiotes. Mais il existe une autre possibilité. Et si ce n'était pas la recherche d'une vie plus facile qui produisit cette transformation? Peut-être les sapiens avaient-ils d'autres aspirations et voulaient-ils sciemment se rendre la vie plus difficile pour les réaliser? Les hommes de science aiment à attribuer des évolutions historiques à des facteurs économiques et démographiques froids. Cela cadre mieux avec leurs méthodes rationnelles et mathématiques. Dans le cas de l'histoire moderne, les chercheurs ne peuvent éviter de prendre en compte des facteurs non matériels, comme l'idéologie et la culture. Les preuves écrites leur forcent la main. Nous avons assez de documents, de lettres et de mémoires pour prouver que la Seconde Guerre mondiale n'est pas le résultat de pénuries alimentaires ou de pressions démographiques. En revanche, nous n'avons pas de documents de la culture natoufienne. S'agissant des périodes anciennes, l'école matérialiste est souveraine. Il est difficile de prouver que les populations d'avant l'écriture étaient motivées par la foi plutôt que par la nécessité économique. Dans quelques rares cas, cependant, nous avons assez de chances pour trouver des indices parlants. En 1995, des archéologues commencèrent à fouiller le site de Göbekli Tepe dans le sud-est de la Turquie. Dans la couche la plus ancienne, ils découvrirent non pas les signes d'un peuplement, d'habitation ou d'activité quotidienne, mais des constructions monumentales à piliers décorés de gravures spectaculaires. Chaque pilier de pierre pesait jusqu'à 7 tonnes pour une hauteur de 5 mètres. Dans une carrière voisine, ils trouvèrent un pilier inachevé d'une cinquantaine de tonnes. Au total, ils découvrirent plus de 10 structures monumentales, la plus grande atteignant près de 30 mètres. Les archéologues connaissent bien ces constructions monumentales que l'on retrouve partout dans le monde. L'exemple le mieux connu est celui de Stonehenge, en Grande-Bretagne. Mais étudiant Göbekli Tepe, ils ont découvert un fait stupéfiant. Stonehenge date de 2500 avant notre ère et fut l'œuvre d'une société agricole développée. Les constructions de Göbekli Tepe sont datées d'environ 9500 avant Jésus-Christ et tout indique qu'elles sont l'œuvre de chasseurs-cueilleurs. Dans un premier temps, la communauté des archéologues a eu du mal à y croire, mais les tests successifs ont confirmé l'ancienneté des structures et l'appartenance de leurs bâtisseurs à une société pré-agricole. Les capacités des anciens fourrageurs et la complexité de leur culture paraissent bien plus impressionnantes qu'on ne l'avait soupçonné jusque-là. Pourquoi une société de fourrageurs bâtirait-elle de telles structures? Sur un plan utilitaire, celle-ci n'avait aucune fin évidente, ni abattoir de mammouths, ni abri pour se protéger de la pluie ou se cacher des lions. Nous en sommes donc réduits à penser que leur construction répondait à une mystérieuse fin culturelle que les archéologues ont du mal à déchiffrer. Quelle qu'elle fût, les fourrageurs estimèrent qu'elle valait beaucoup d'efforts et de temps. Göbekli Tepe ne pouvait voir le jour que si des milliers de fourrageurs appartenant à des bandes et tribus différentes acceptaient de coopérer durablement. Seul pouvait justifier de tels efforts un système religieux ou idéologique sophistiqué. Göbekli Tepe recelait un autre secret. Depuis de longues années, les généticiens recherchaient les origines du blé domestiqué. Des découvertes récentes prouve qu'au moins une variante domestiquée, l'engrain, trouve son origine dans les collines de Karadjadagou, à une trentaine de kilomètres de Göbekli Tepe. Ce ne saurait guère être un hasard. Probablement le centre culturel de Göbekli Tepe est-il lié d'une façon ou d'une autre à la domestication initiale du blé par l'humanité et de l'humanité par le blé. Nourrir les gens qui ont construit et utiliser les structures monumentales nécessitait des quantités de vivres particulièrement importantes. Il est fort possible que les fourrageurs soient passés de la cueillette de blé sauvage à la culture intensive du blé, non pas pour accroître leur approvisionnement normal, mais pour soutenir la construction et l'activité d'un temple. Suivant le schéma conventionnel, des pionniers commencèrent par bâtir un village. La prospérité venant, ils bâtirent un temple au centre. Or, Göbekli Tepe suggère que le temple a pu être construit d'abord et qu'un village se forma ensuite autour. Victime de la Révolution. Le pacte faustien entre hommes et grains ne fut pas le seul marché que fit notre espèce. Il y en eut un autre, concernant le sort des moutons, des chèvres, des cochons et des poulets. Les bandes nomades qui traquaient les moutons sauvages modifièrent peu à peu la constitution des troupeaux dont elles faisaient leur proie. Le processus commença probablement par une chasse sélective. Les hommes apprirent qu'ils avaient intérêt à chasser les béliers adultes et les moutons vieux ou malades et à épargner les femelles fertiles et les agnolets afin de préserver la vitalité à long terme du troupeau local. La deuxième étape put être de défendre le troupeau contre les prédateurs en chassant les lions, les loups et les bandes humaines rivales. Après quoi, il fallut sans doute parquer le troupeau dans une gorge étroite pour mieux le surveiller et le défendre. Et finalement, les hommes se mirent à procéder à une sélection plus méticuleuse des moutons au gré de leurs besoins. Les premiers abattus furent les béliers les plus agressifs, les plus récalcitrants au contrôle des hommes. Puis ce fut le tour des femelles les plus décharnées et indiscrètes. Les bergers n'aiment pas les moutons que leur curiosité éloigne du troupeau. À chaque génération, les moutons devinrent plus gras, plus dociles et moins curieux. Et voilà, Marie avait un agnelet qui la suivait partout où elle allait. Inversement, les chasseurs purent attraper et adopter un agneau, l'engraisser au cours des mois d'abondance pour l'abattre à la saison maigre. Le moment venu, ils se mirent à garder plus d'agneaux de ce genre. Certains arrivèrent à la puberté et purent faire des petits. Les premiers abattus furent les plus agressifs et les plus turbulents. Les plus dociles et les plus attachants étaient laissés en vie plus longtemps et pouvaient se reproduire, donnant naissance à un troupeau de moutons domestiqués et soumis. Ces animaux domestiqués, moutons, poules, ânes et autres, fournirent nourriture, viande, lait, œufs, matières premières, peau, laine et force musculaire. Jusqu'ici accomplis par les hommes, les transports, le labourage, le moulage et d'autres tâches furent de plus en plus délégués aux animaux. Dans la plupart des sociétés agricoles, la priorité était donnée à la culture des plantes. L'élevage n'était qu'une activité secondaire. Dans certains endroits apparut cependant une nouvelle espèce de société essentiellement fondée sur l'exploitation des animaux, des tribus de bergers pastoralistes. Les animaux domestiqués se répandirent en même temps que les hommes à travers le monde. Voici 10 000 ans, pas plus de quelques millions de moutons, de bestiaux, de chèvres, de sangliers et de poulets vivaient dans des niches afro-asiatiques restreintes. De nos jours, le monde contient près d'1 milliard de moutons, 1 milliard de cochons, plus d'1 milliard de bestiaux et plus de 25 milliards de poules. Et ils sont partout. Le poulet domestique est la volaille la plus répandue de tous les temps. Le bétail, le cochon et le mouton domestiqué sont les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes gros mammifères les plus répandus dans le monde, après l'Homo sapiens. Dans une perspective évolutionniste étroite, qui mesure la réussite au nombre de copies de l'ADN, la révolution agricole a été une prodigieuse aubaine pour les poulets, le bétail, les porcs et les moutons. Malheureusement, la perspective évolutionniste est une mesure incomplète du succès. Elle juge tout d'après les critères de la survie et de la reproduction, sans considération de la souffrance et du bonheur individuel. La domestication des poulets et du bétail peut bien être une success story de l'évolution, mais ces créatures comptent parmi les plus misérables qui aient jamais vécu. La domestication des animaux se fonda sur une série de pratiques brutales dont la cruauté ne fit que s'accentuer au fil des siècles. La durée de vie naturelle des poulets sauvages est de 7 à 12 ans, celle du bétail de 20 à 25 ans. À l'état sauvage, la plupart des poulets mouraient bien avant, mais ils avaient encore une bonne chance de vivre un nombre respectable d'années. De nos jours, en revanche, l'immense majorité des poulets et des bestiaux domestiqués sont abattus après quelques semaines, voire quelques mois, parce que dans une perspective économique, tel a toujours été l'âge optimal d'abattage. Pourquoi continuer de nourrir un coq durant 3 ans s'il a déjà atteint son poids maximal au bout de 3 mois? On laisse parfois vivre plusieurs années les poules pondeuses, les vaches laitières et les animaux de trait, mais au prix de leur sujétion à un mode de vie totalement étranger à leurs besoins et à leurs désirs. On peut raisonnablement penser, par exemple, que les taureaux préfèrent passer leur journée en vadrouille dans les prairies en compagnie d'autres taureaux et de vaches, plutôt que de tirer des charrettes et des charrues sous le joug d'un singe muni d'un fouet. Pour transformer des taureaux, des chevaux, des ânes et des chameaux en animaux de trait obéissants, il fallut briser leurs instincts naturels et leurs liens sociaux, contenir leur agressivité et leur sexualité et amputer leur liberté de mouvement. Les cultivateurs mirent au point diverses techniques pour enfermer les animaux dans des enclos et des cages, les brider avec des harnais et des laisses, les dresser à coups de fouet ou de pique et les mutiler. Le domptage implique presque toujours la castration des mâles, qui empêche l'agressivité et donne aux hommes un contrôle sélectif de la procréation du troupeau. À l'état sauvage, le bétail vadrouillait à sa guise en troupeau régi par une structure sociale complexe. Le bœuf castré et domestiqué a perdu sa vie sous le fouet et dans un enclos étroit, travaillant seul ou deux par deux, d'une façon qui ne convenait ni à sa morphologie ni à ses besoins sociaux ou émotionnels. Quand un bœuf ne pouvait plus tirer la charrue, il était abattu. Dans beaucoup de sociétés néo-guinéennes, la richesse d'une personne est traditionnellement déterminée par le nombre de cochons qu'elle possède. Pour éviter qu'ils ne s'enfuient, les cultivateurs du nord de la Nouvelle-Guinée leur tranchent un bout du groin. Chaque fois que le cochon veut renifler, la douleur est vive. Un cochon, ne pouvant trouver de la nourriture ni même son chemin sans renifler, cette mutilation le met totalement à la merci de ses propriétaires humains. Dans une autre région de Nouvelle-Guinée, la coutume s'est imposée d'énucléer les cochons, qu'ils ne puissent voir où ils vont. L'industrie laitière dispose de moyens propres pour forcer les animaux à se plier à ses volontés. Vaches, chèvres et brebis ne produisent du lait qu'après avoir donné naissance à des veaux, des chevreaux et des agneaux, et juste le temps d'allaiter les petits. Pour qu'elles continuent à avoir du lait, il leur faut des petits qui têtent, tout en les empêchant de monopoliser le lait. Une méthode courante, tout au long de l'histoire, a été de simplement massacrer les veaux et les chevaux peu après la naissance, de traire la mère et de faire en sorte qu'elle retombe enceinte. C'est une technique toujours très répandue. Dans de nombreuses fermes laitières modernes, une vache laitière vit autour de 5 ans avant d'être abattue. Au cours de ces 5 années, elle est presque constamment enceinte et elle est fécondée dans les 60 à 120 jours qui suivent une naissance pour assurer une production de lait maximale. Ces veaux sont séparés d'elle peu après la naissance. Les femelles sont élevées pour en faire la génération suivante de vaches laitières. Les mâles sont confiés aux soins de la filière viande. Une autre méthode consiste à garder veaux et chevreaux à proximité de leur mère, tout en trouvant des stratagèmes pour les empêcher de téter trop de lait. La solution la plus simple consiste à laisser le chevreau ou le veau commencer à téter, puis à l'écarter dès que le lait commence à couler. Cette méthode se heurte habituellement à la résistance du petit et de la mère. Certaines tribus pastorales tuaient les petits, en mangeaient la chair, puis les empaillaient. Le petit empaillé était alors présenté à la mère afin d'encourager par sa présence sa production laitière. L'énuaire du Soudan allait jusqu'à imprégner les animaux empaillés de l'urine maternelle afin de donner aux contrefaçons une odeur familière vivante. Une autre technique nuaire consistait à accrocher un anneau d'épines autour de la bouche du veau. Ainsi piquait-il sa mère, qui l'empêchait alors de téter. Dans le Sahara, les éleveurs de chameaux touareg avaient l'habitude de percer ou de trancher des parties du naseau et de la lèvre supérieure des chameaux pour que téter leur soit douloureux et les décourager ainsi de prendre trop de lait. Toutes les sociétés agricoles ne furent pas aussi cruelles envers leurs animaux de ferme. La vie des animaux domestiqués pouvait être fort bonne. Les moutons élevés pour la laine, les chiens et chats de compagnie et les chevaux de guerre ou de course bénéficiaient souvent d'un certain confort. L'empereur romain Caligula avait un cheval favori, Incitatus, qu'il envisageait de nommer consul. Tout au long de l'histoire, des pasteurs et des cultivateurs montrèrent de l'affection à leurs animaux et prirent grand soin d'eux, de même que beaucoup de maîtres avaient de l'affection et de la sollicitude pour leurs esclaves. Ce n'est pas un hasard si rois et prophètes se disaient bergers et comparaient les attentions des dieux à l'égard de leur peuple à celles d'un pasteur pour son troupeau. Du point de vue du troupeau, plutôt que de celui du berger, il est pourtant difficile de se défaire de cette impression. Pour l'immense majorité des animaux domestiqués, la révolution agricole a été une terrible catastrophe. Leur réussite en termes d'évolution n'a aucun sens. Un rhinocéros sauvage rare au bord de l'extinction est probablement plus satisfait qu'un veau qui passe sa brève vie dans une boîte minuscule, engraissée pour donner de la viande savoureuse. Le rhinocéros satisfait n'est pas moins content parce qu'il est le dernier de son espèce. Quant à la réussite numérique de l'espèce du veau, elle n'est guère une consolation de la souffrance qu'endure l'individu. Ce décalage entre la réussite au regard de l'évolution et la souffrance individuelle est peut-être la leçon la plus importante qu'il nous faille tirer de la révolution agricole. Quand nous étudions le parcours de plantes telles que le blé ou le maïs, peut-être la perspective purement évolutive a-t-elle du sens. Dans le cas du bétail, du mouton et du sapiens, c'est-à-dire d'animaux qui ont tous un monde complexe de sensations et d'émotions, il nous faut examiner comment le succès de l'évolution se traduit en expérience individuelle. Au fil des chapitres suivants, nous aurons maintes occasions de voir qu'une augmentation spectaculaire de la force collective et le succès apparent de notre espèce sont allés de pair avec de grandes souffrances individuelles.